journal, Kevin Dufraîche, bonjour.
Bonjour à tous. Pour un café en terrasse, pour faire les boutiques ou pour monter dans un TGV, il est désormais indispensable. Le pass sanitaire élargi entre en vigueur aujourd'hui. Où est-il obligatoire? Et à l'inverse, où peut-on s'en passer? Réponse pratique dès le début de ce journal. On sera à Biarritz pour voir si le pass sanitaire est appliqué à l'ouverture des cafés ce matin. Et puis on vous racontera l'histoire du fameux QR code, le pass sanitaire au menu. Des discussions avec votre invité à 8h20, Hélène.
Le ministre délégué chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari, au micro Inter. Qui va contrôler, qui va sanctionner dans les trains? L'intransigeance était-elle la solution? On attend aussi vos questions, chers auditeurs. Appelez-nous, le standard est ouvert. 01 45 24 7000 ou sur l'appli France Inter.
Dans ce journal, encore la nouvelle alerte des experts de l'ONU sur le climat. Le GIEC rend son rapport ce matin. À un mois de l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre, le barreau de Paris rééquilibre les rémunérations des avocats en prenant un peu d'argent à ceux des parties civiles pour les donner aux défenseurs des accusés. Les sportifs français, déjà la tête à Paris 2024, le compte à rebours est lancé. 1082 jours à attendre contre seulement quelques heures au Paris Saint-Germain qui s'apprête à accueillir la star Léo Messi.
France Inter.
Que vous l'ayez sur votre smartphone ou sur une feuille bien pliée dans une de vos poches, il vaut mieux ne pas sortir sans à partir de ce matin. Le pass sanitaire est élargi à beaucoup de domaines de notre vie quotidienne. Un rappel, le QR code s'obtient avec une vaccination à jour, un test négatif de moins de 72 heures ou bien un certificat de rétablissement du Covid si vous l'avez eu il y a moins de 6 mois. Bonjour Mathilde Dehimy.
Bonjour Kevin.
Rentrons dans les détails pratiques avec vous parce que c'est parfois compliqué de s'y retrouver ce matin. D'abord, dans les transports, est-ce que je dois présenter mon pass, Mathilde?
Alors oui, surtout les vols et cars interrégionaux. Dans les TGV Inouï, Ouigo et TGV internationaux au départ de la France. Pas de pass sanitaire en revanche pour les TER, Transilien et tous les transports en commun urbains, les métros, bus, tram et RER.
Autre question, en ai-je besoin pour prendre mon café en terrasse puisque c'est l'heure?
Oui, il n'y a plus de distinction intérieure ou en terrasse. Le pass est obligatoire partout, dans les cafés, les bars et les restaurants, mais pas dans les cantines ou les relais routiers.
Est-ce que je peux faire mes courses sans pass sanitaire?
Mais oui, bien sûr. Il y a une seule exception, ce sont les très grands centres commerciaux qui seront, eux, soumis et sur décision du préfet au pass sanitaire. Conséquence, tous les petits commerces à l'intérieur de ce centre seront concernés.
Cas particulier mais important, Mathilde, si je me marie, est-ce que je dois contrôler le pass sanitaire de mes invités?
Alors pas pour assister au meilleur moment de votre vie, à la cérémonie, à la mairie ou dans le lieu de culte, mais pour faire la fête, oui, vous devrez leur demander un pass sanitaire. Si ça se déroule dans une salle des fêtes, un château, un chapiteau, et c'est l'organisateur du mariage qui est responsable des contrôles.
Et enfin Mathilde, mon QR code, dois-je le présenter pour consulter mon médecin?
Alors votre médecin traitant ou un spécialiste ne vous demandera pas de pass sanitaire. La nuance, elle se trouve en fait dans les hôpitaux. Soit vous avez rendez-vous pour une consultation ou bien vous venez visiter un proche et dans ce cas, le pass vous sera demandé sauf contre ordre. Mais le ministre de la Santé l'a précisé hier, en aucun cas le pass ne sera un frein pour des soins utiles et urgents, dit Olivier Véran.
Mathilde Dehimy, merci pour tous ces éclairages. Parmi les autres petits changements ou assouplissements, un test négatif fait office de pass sanitaire désormais pendant 72 heures et non plus 48. Les autotests sont acceptés à condition d'être supervisés par un pharmacien ou un médecin. Le pass sanitaire est en vigueur jusqu'au 15 novembre pour l'instant et rappelons-le, les ados de 12 à 17 ans ne seront pas concernés avant le 30 septembre. En cas de non-respect de l'application du pass sanitaire, les sanctions seront fortes, notamment pour les commerçants. Le gouvernement a promis néanmoins que cette première semaine d'application serait une semaine de rodage, mais tous les établissements concernés sont censés être prêts ce matin. Alors est-ce que c'est le cas? Margot Kefelec, vous êtes à Bidart, au Pays Basque, café chez Peyo, où les premiers clients sont attablés.
Le petit café du matin a un goût un peu particulier aujourd'hui pour les clients qui jouent tous le jeu. Ils ont leur QR code imprimé à la main, comme Yves par exemple, qui vient tous les matins avant sa distribution de journaux.
C'est un peu pesant, on va dire. Ça fait un peu bizarre. C'est pas tout à fait naturel, mais bon, il faut s'y faire. Moi, je suis un petit peu, pas dire réticent, mais oui. Allez, il faut s'y habituer, quoi.
Il faut aussi s'habituer à l'application de vérification des passes pour le patron Pierre, qui par exemple n'avait pas prévu qu'il y aurait des reflets avec les lumières qui l'empêchent de valider rapidement les QR codes. La mesure l'inquiète en tout cas pour la suite de son activité. Il a peur qu'à cause des contraintes, en fait, les gens perdent l'habitude du petit café du matin.
C'est quand même une mesure qui vient se rajouter aux autres contraintes que l'on a eues depuis maintenant un an. Donc ça, c'est la contrainte de plus. J'espère que ça ne sera pas la contrainte de trop. Le café du matin va sûrement se perdre. Encore, j'ai des habitués, les nouveaux, je ne suis pas sûr qu'ils vont s'arrêter facilement dans un établissement. Tout le monde n'est pas au point.
Pour ses habitués, en tout cas, qu'il s'est vacciné, Pierre confie qu'il ne vérifiera pas le pass tous les matins, mais seulement aujourd'hui, très consciencieusement.
Margot Kefelec à Bidart, avec les moyens techniques d'Alexandre Abergel. Ce pass sanitaire matérialisé donc par ce fameux QR code, désormais quasiment indispensable dans nos vies. Mais d'où vient-il? C'est le sujet de notre série cette semaine sur Inter, les incontournables de notre quotidien. Et à l'origine, Antoine Gignot, on est bien loin du pass sanitaire puisque le QR code a été inventé pour trier des pièces automobiles.
C'est pour améliorer le suivi des pièces détachées de Toyota qu'un ingénieur japonais invente le procédé en 1994. À l'époque, les employés scannent un par un les codes-barres qui arrivent sur la chaîne de production. Un travail fastidieux et lent, trop lent pour Masahiro Hara, cadre dans l'une des filiales du groupe. Il cherche pendant 2 ans un moyen d'améliorer le système et crée ce procédé QR, Quick Response, en français, réponse rapide. Sur un modèle carré, comme le plateau du traditionnel jeu de Go, il dessine et aligne des pixels, un petit carré noir pour le 1, un carré blanc pour le 0. Le QR code, c'est tout simplement du code informatique en version imagée. Si vous n'avez rien à faire de vos vacances, vous pouvez d'ailleurs théoriquement lire vous-même le contenu sans aucun appareil. Le véritable atout, c'est la capacité de stockage. Le petit dessin peut contenir plus de 7000 caractères numériques, l'équivalent de 700 codes-barres classiques. Il contient plusieurs fois le même message pour faciliter le décryptage.
Antoine Gignot, les incontournables de notre quotidien, c'est toute cette semaine dans le journal de 8h. Demain, on parlera du Wi-Fi.
France Inter, 8h07, de la Californie à la Grèce, les incendies poursuivent leur course folle.
L'État américain est depuis un mois maintenant sous la menace de Dixie Fire, deuxième plus grand feu de l'histoire pour la Californie. Des milliers d'habitants ont dû être évacués. 3 personnes sont portées disparues ce matin. Évacuation aussi sur l'île d'Eubée, non loin d'Athènes, en Grèce, où les pompiers se battent contre le brasier depuis 11 jours. Maintenant, l'été marqué par les feux, les inondations, aussi la planète continue de donner nombre de signaux d'alarme sur le dérèglement climatique. Et c'est aujourd'hui que le groupe d'experts de l'ONU sur le climat, le GIEC, rend son rapport complet sur le sujet. Le premier en 7 ans, avec des prévisions sur les conséquences du réchauffement. Une alerte qu'il faut enfin prendre au sérieux, selon Victor Costa. Il est l'un des participants à la Convention citoyenne pour le climat.
Là, même les sceptiques, ils doivent se rendre compte, on est dedans, quoi. Donc on voit bien les records de température un petit peu partout dans le monde, à des endroits en plus où généralement il ne fait pas ces températures-là. On a toutes les inondations qu'on a eues jusqu'à présent, donc voilà. Le rapport, lui, il est important. Il viendra se rajouter au rapport qui était déjà alarmiste. Ça ne changera pas grand-chose, puisqu'après, c'est une volonté politique de vraiment prendre des décisions radicales et dures. À côté de ça, bah, c'est en contradiction avec l'économie, avec la croissance, avec tout ça. Donc je pense que là, on ne peut pas remettre en cause des milliers de scientifiques qui bossent depuis des années dessus, quoi.
Réaction au micro de Lucas Archassal, France Bleu Auxerre. C'était il y a un an, jour pour jour, en Biélorussie. Le président Alexandre Loukachenko était réélu pour un 5e mandat. Suivaient alors des condamnations internationales face à une élection truquée et des manifestations historiques dans ce pays, souvent décrit comme la dernière dictature d'Europe. Et comme souvent, une chanson accompagne ce mouvement populaire. On vous en parle chaque lundi de l'été sur France Inter dans notre série Protest Songs. L'opposition biélorusse n'a toujours pas renoncé à faire tomber Loukachenko et leur hymne vient de très loin, Cyril Sauvageau.
Été 2020, dans les rassemblements contre la réélection d'Alexandre Loukachenko, une chanson revient, toujours la même, reprise en chœur, comme ici dans le métro de Minsk. Les paroles sont en biélorusse, mais la mélodie est bien connue des mouvements révolutionnaires de par le monde. C'est une adaptation de l'Estaca, le pieu, une chanson catalane composée par Louis Liac à la fin des années 60 et devenue un symbole de la lutte contre l'oppression franquiste. Le textes d'inspiration paysanne racontent comment les hommes, s'ils s'unissent, peuvent faire tomber les pieux qui entravent la liberté. Immensément populaire en Catalogne, l'estaca va connaître un destin international. Traduite dans 17 langues, elle ressurgit en Pologne au début des années 80 avec le mouvement Solidarność. C'est cette version polonaise qui sera ensuite traduite en biélorusse par le poète Andrei Chadanovitch. Un an après le début des manifestations, le pieu n'est toujours pas tombé, Loukachenko est toujours en place. Mais les opposants gardent espoir et ils chantent pour surmonter la peur.
Cyril Sauvageau proteste songs chaque lundi et c'est à réécouter, à lire aussi sur franceinter.fr.
Dans un mois, Kevin, le plus grand procès jamais organisé en France va commencer.
Celui des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis. 9 mois d'audience au programme. Et dans la salle construite spécialement pour ce procès, plus de 350 avocats, en majorité pour représenter les quelques 1800 victimes constituées parties civiles. Ils seront une trentaine pour défendre les accusés. Et ces avocats de la défense seront finalement un peu mieux payés que prévu. Le système de l'aide juridictionnelle est plus favorable, normalement, aux avocats des parties civiles. Alors le barreau de Paris a décidé de rééquilibrer un peu la balance, Jean-Philippe Degnaud.
La règle actuelle prévoyait qu'un avocat en partie civile allait percevoir un forfait de 272 euros par jour pour chaque client qu'il représente. Tandis qu'en défense, non seulement chaque avocat ne peut avoir qu'un seul client, mais surtout, il doit partager ce forfait avec le confrère qui intervient à ses côtés. Au bout du compte, un avocat pouvait donc percevoir jusqu'à 100 fois plus d'aide juridictionnelle qu'un autre. Le Conseil de l'Ordre des avocats de Paris a donc décidé de taxer légèrement les revenus des premiers, 9% maximum, pour permettre de multiplier par 4 ceux des autres. Une correction bien comprise dans la profession, affirme Maître Guillaume Martine du Conseil de l'Ordre.
Ce procès ne peut avoir de sens que si la défense est en mesure de jouer pleinement son rôle, et elle ne peut le faire que si on lui offre les conditions matérielles. Donc je crois que cette décision du Conseil de l'Ordre qui a été prise aussi un peu à contre-cœur, il faut le dire, encore une fois, on aurait préféré que cette décision soit prise au niveau de la chancellerie. Cette décision, je crois, est bien prise par la majorité des avocats qui interviennent dans ce procès et des avocats en général qui ont eu à connaître de ce dispositif.
Ce rééquilibrage n'a pas vocation à être étendu à tous les procès, mais il pourra être renouvelé dans d'autres dossiers exceptionnels, comme celui du procès de l'attentat de Nice qui sera jugé à l'automne 2022.
Tokyo tourne sa page olympique.
Et oui, même s'il reste les Jeux paralympiques du 24 août au 5 septembre, le flambeau a été transmis hier à Paris, ville haute en 2024. La maire Anne Hidalgo a récupéré le drapeau olympique au stade national de Tokyo. Il sera hissé sur le parvis de l'hôtel de ville cet après-midi. Et on s'est tourné durant toute cette matinale vers Paris 2024. On le fait à nouveau dans ce journal parce qu'il n'y a pas que la maire de Paris et les organisateurs des JO qui sont impatients. Il y a aussi les athlètes français à peine rentrés de Tokyo est déjà concentré sur cet objectif de Paris 2024. Guillaume Batin.
Les premiers athlètes médaillés à Tokyo rentrés en France se projettent dans 3 ans. Jean-Ki Campois se voit déjà défendre son titre olympique au tir au pistolet à Paris.
J'imagine bien ici, avec un cadre qui est vraiment magnifique et un public qui sera certainement, et j'en suis sûr, au rendez-vous. Donc ça va vraiment être une belle fête du sport et vraiment que du bonheur.
Encore sous le choc de l'accueil chaleureux du public parisien hier au Trocadéro, Florent Manaudou, vice-champion olympique du 50 mètres nage libre, a déjà organisé les 3 prochaines années.
Ouais, bien sûr. En plus, il n'y a que 3 ans, donc ça arrange beaucoup de monde. Hein. On se dit que voilà, la première année va être un petit peu... soit une année où on souffle un petit peu, où voilà, on profite d'autres choses. Et après, il reste plus que 2 ans et c'est demain, en fait. Donc franchement, moi, j'ai hâte de voir comment ça va se passer et j'ai hâte de pouvoir participer à ces jeux.
Quant à Kevin Mayer et ses 2 médailles d'argent au décathlon à Rio et Tokyo, Paris est aussi dans sa ligne de mire.
J'ai jamais fait de championnat en France et là, c'est les JO. Je suis désolé, mais je suis toujours rêvé vers la jeunesse et quand je vois les petits enfants qui sont là et qui ont les yeux qui rêvent, j'ai l'impression que c'est moi il y a 20 ans et je me dis qu'eux, ils prendront peut-être la relève après et c'est ça qui me fait le plus plaisir, je pense.
Il reste quand même 1082 jours à patienter avant la cérémonie d'ouverture de Paris 2024.
Guillaume Batin, lui, n'était pas à Tokyo, mais il a aussi tourné une page de son histoire et de celle du football hier. Lionel Messi, en larmes en conférence de presse au moment de quitter définitivement le FC Barcelone, sa maison pendant plus de 20 ans. Mais son chagrin devrait être rapidement apaisé puisque la star argentine est attendue à Paris aujourd'hui pour s'engager au PSG. Après Neymar, il y a 4 ans, le club français est en train de réaliser un nouveau très gros coup, Alexandre Vaux.
Déjà parce que le Paris Saint-Germain a été un des premiers clubs à ébaucher un plan. Lionel Messi depuis le 1er janvier dernier, depuis qu'il est libre de s'engager avec un club. Mais jusqu'à jeudi soir, le FC Barcelone était la priorité de l'Argentin. Depuis jeudi soir, l'état-major parisien a donc été un des premiers à reprendre le dialogue. Pas affolé en ces temps de crise par le salaire du meilleur joueur du monde, estimé à 75 millions d'euros nets par an, car Lionel Messi a déjà accepté à Barcelone de diviser son salaire par deux, et qu'actuellement, pour faire face à la crise économique et sanitaire, l'UEFA a assoupli sa règle du fair play financier. Et puis à Paris, la star argentine formera avec Neymar et Kylian Mbappé la plus belle attaque du moment pour tenter d'offrir au PSG sa première Ligue des Champions. Messi retrouvera aussi des amis, Neymar et son compatriote Angel Di Maria, une ville où sa famille se voit également poser ses valises, plus qu'en Angleterre en tout cas, par exemple à Manchester.
Alexandre Vaux, le foot toujours sur les pelouses de Ligue 1 et la bêtise dès la première journée hier soir à Montpellier. Le match de clôture face à Marseille a été interrompu plusieurs minutes après des jets de projectiles venus des tribunes. Un joueur de l'OM a été légèrement touché à la tête. Deux personnes ont été interpellées. Pour ce qui est du sport, les Marseillais se sont imposés 3-2.
C'était le journal de Kevin Dufraîche, la couleur du ciel.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Ah, j'aime quand vous me parlez comme ça, Stéphanie Fromentin. Le temps devient doucement estival.
Oui, qui va piano, va sano. De la Bretagne et des Pays de la Loire à la frontière belge en passant par la région parisienne. Le ciel est encore chargé ce matin dans une ambiance qui reste humide, pas très chaude pour la période. Des averses circulent même cet après-midi de la Bretagne à la frontière belge. Elles se raréfient en soirée. Et puis le vent accompagne cette perturbation par rafale de 60 km par heure sur le littoral, mais son intensité faiblit elle aussi en cours de journée. Sur les Hauts-de-France et près de la Manche, les ondées sont fréquentes, temporairement soutenues. Le tonnerre gronde par moments, partout ailleurs. Le temps est sec. Le ciel, souvent voilé au réveil, s'illumine pour offrir une belle journée estivale des Pyrénées aux Alpes.
Et l'atmosphère commence à se réchauffer.
Là aussi, on y va doucement sur la moitié nord avec un réveil un peu frais, 10 à 15 degrés en général, voire 4 à 9 sur le massif central et les Alpes. Ça se réchauffe un peu cet après-midi, 19 à 23 sur le nord et le nord-ouest, 22 à 26 sur l'est et le massif central. Autour de la Grande Bleue, les températures sont toujours très estivales, 15 à 20 degrés ce matin, 25 à 30, voire 32 dans l'intérieur de la Provence en cours de journée. Il fera 19 degrés à Boulogne-sur-Mer, 23 à Paris, Rennes ou Pithiviers, 26 degrés à Saint-Étienne, 29 à 7 et 31 degrés à La Palue-sur-Verdon.
Et c'est où ça, La Palue-sur-Verdon, Stéphanie?
C'est dans le Verdon, c'est dans les gorges du Verdon. C'est très beau.
Voilà,
on fait du camping.
Comme le dit son nom, Stéphanie Fromentin, à tout à l'heure, tout de suite géopolitique.
Le 6-9. Listen anywhere. Huawei Dubaï. Wahdahou min Souria. Sur France Inter.
À 8h18, on a rendez-vous avec Anthony Bélanger. Bonjour.
Bonjour Hélène, bonjour à tous.
En Afghanistan, les talibans ont pris ce week-end 3 grandes villes de province.
Oui, Talokan, Sarhulpul et surtout Kunduz, une ville de 350 000 habitants dans le nord du pays. Depuis plusieurs mois maintenant, on sait que les talibans enserrent plusieurs capitales provinciales depuis les zones rurales qu'ils contrôlent. Mais la prise de Kunduz signifie qu'ils sont capables de s'imposer dans des régions qui ne leur sont pas acquises. Le Talibanistan, hein, c'est le sud et le sud-est du pays, autrement dit les zones pachtounes et frontalières avec le Pakistan. Kunduz, c'est le nord tadjik. Mais plus encore que ces villes prises, c'est la rapidité avec laquelle ils ont submergé les troupes gouvernementales qui effarent une armée qui s'est débandée sous leurs attaques et dont on se demande combien de temps elle tiendra encore ailleurs.
Comment expliquer que l'armée afghane n'offre pas plus de résistance ?
Ben c'est vrai que cela semble mystérieux. Hein. Les Américains, mais pas seulement eux d'ailleurs, ont littéralement déversé des dizaines de milliards de dollars pour la former, l'armée, cette armée. Et ce, depuis 20 ans qu'ils sont sur place et soutiennent à bout de bras les institutions du pays. Sauf que dans toute son histoire récente, l'Afghanistan n'a jamais eu de véritable armée nationale. Les soldats en Afghanistan sont perçus comme des mercenaires, stipendiés par les Américains aujourd'hui, les Russes hier, les Anglais encore avant. Les vrais combattants, eux, sont rassemblés par des seigneurs de guerre que le gouvernement afghan actuel n'a même pas parvenu à unir contre les talibans qui pourtant les haïssent et qui font preuve, eux, d'une discipline et d'une unité de commandement remarquable. Un détail qui dit beaucoup: lorsque les soldats de l'armée afghane sont blessés, ils sont évacués vers des hôpitaux totalement dysfonctionnels. Lorsque les soldats talibans, eux, sont blessés, ils sont évacués vers des hôpitaux pakistanais où tout est prévu pour les accueillir, y compris leurs familles.
Et comment se fait-il, Anthony, que les Américains n'aient jamais pu s'en défaire?
Ah, mais il suffit de regarder une carte, hein. Les talibans slogans sont bien sûr un mouvement religieux radical, mais aussi et surtout un mouvement nationaliste pachtoun. Or, les pachtouns, qui représentent environ 40% de la population afghane, débordent aussi sur le Pakistan voisin. En 20 ans, les talibans et leurs familles ont toujours eu une position de repli, voire de repos, au Pakistan. Ils ont toujours eu accès à des banques, des commerces et des communications modernes, contrairement à leurs adversaires enkystés dans un Afghanistan ruiné.
Alors, quel est leur but aujourd'hui ? C'est reprendre le pouvoir ?
Oui, et vite, c'est-à-dire avant le retrait du dernier soldat américain le 31 août prochain. Ils veulent que Washington sente le souffle de l'humiliation. Certains parmi leurs chefs ont été incarcérés des années durant à Guantanamo. Ils veulent leur revanche. On sait par ailleurs qu'Al-Qaïda serait présente dans une quinzaine de provinces afghanes. Autrement dit, sur les deux buts principaux de guerre, déloger Al-Qaïda et défaire les talibans, Washington a échoué et les talibans veulent que ça se sache.
Géopolitique avec Anthony Bélanger. À demain, Anthony. Le grand entretien à suivre avec Jean-Baptiste Djebari. Restez avec nous sur France Inter.